C'est une rencontre au jardin que vous propose Radio Éthique autour de l'ouvrage « L'art d'acclimater les plantes exotiques, le jardin de la Villa Turée » paru aux éditions Kouaé. Jean Tonelli a rencontré l'un des auteurs, Catherine Ducatillon. Ingénieure à l'INRA et spécialiste de l'acclimatation, elle a pris dès 1989 la responsabilité du jardin Turée.
Sur la Côte d'Azur, par exemple, on a acclimaté énormément de plantes. Quelles étaient les plantes endémiques de la Côte d'Azur avant que la mode de l'acclimatation des plantes exotiques ne fasse jour ?
Sur la Côte d'Azur, nous avons encore, heureusement, toutes les espèces que nous connaissons qui sont des espèces indigènes et qui sont encore présentes plutôt, évidemment, dans l'arrière-pays, mais qu'on retrouve ça et là au fil de nos promenades. Il reste dans notre nature un très grand nombre d'espèces puisque nous sommes dans un département de très très riche en endémisme. Donc pour vous en citer quelques-unes, vous avez bien sûr les chênes, qu'il s'agisse du chêne vert ou du chêne blanc. Vous avez des quantités d'herbes, je vais peut-être dire quelques-unes qui sont rares, qu'on voit plus tellement dans nos paysages, qui sont les anémones, qui sont des petites plantes à fleurs de ce type-là, mais il y en a des quantités
et
des quantités.
Et par exemple, dans les plantes à l'inverse, que l'on croit être d'origine de la Côte d'Azur, qui ne le sont pas du tout, alors qu'on a l'impression qu'elles sont là, pour certaines d'ailleurs, depuis des siècles.
Depuis des siècles, vous avez toutes les plantes qui caractérisent en quelque sorte notre paysage aujourd'hui, enfin qui différencient ce paysage peut-être de ce qu'on connaît ailleurs en France, et qui sont par exemple les palmiers, les eucalyptus, les mimosas. J'emploie bien sûr les termes génériques, des noms que tout le monde peut comprendre, mais qui viennent de très nombreuses espèces.
Et même les oliviers, ils ne sont pas originaires de la région
Alors là, les oliviers sont ici depuis très très longtemps, et les oliviers sont originaires du bassin méditerranéen.
D'accord.
Au sens large.
La Villa Turée, c'est un des exemples extraordinaires qu'on peut visiter sur la Côte d'Azur, sur un jardin où beaucoup d'espèces ont été acclimatées, amenées par des navigateurs, amenées par des scientifiques. Quelles sont les précautions à prendre pour arriver à acclimater au mieux un arbre exotique ?
On va peut-être commencer par une petite définition très simple. Qu'est-ce qu'on désigne par acclimatation ? En fait, c'est un geste très simple que chacun d'entre nous fait. On va voyager, on part se promener dans le monde, on récupère une graine, puis cette graine, on l'amène avec soi et on la plante dans un jardin qui est un jardin étranger à la graine d'origine. Alors ça, c'est en quelque sorte l'introduction, c'est notre travail à nous. Donc c'est le travail du jardin d'acclimatation, qui est le jardin de la Villa Turée, qui est un travail d'introduction, en fait, d'espèces qui sont en provenance d'ailleurs, de pays très lointains, et qu'on va faire germer, et qu'on va planter dans un pays d'accueil. Ensuite, l'acclimatation, ça désigne le fait que cette plante-là, elle a été semée dans un pays qui lui est étranger, mais elle arrive à pousser. C'est-à-dire qu'elle arrive à supporter, parce que son génome est préparé, parce qu'elle a tout ce qu'il faut au sein de ses gènes, elle arrive à supporter les conditions dans lesquelles on l'a transposée, en quelque sorte. Donc elle est capable de germer, elle est capable de supporter le sol dans lequel on la met, elle est capable de supporter le climat. Comment faire pour faire de l'acclimatation correctement ? Il faut se méfier, parce que transporter une plante, ce n'est pas anodin. On joue avec le vivant, il faut faire attention. Il faut vérifier que cette plante ne présente pas un risque pour son milieu d'accueil. Alors ça peut être un risque pour la santé humaine, par exemple. Admettons qu'on introduise une plante qui est un pollen fortement allergisant et que cette plante, on la plante en grand nombre dans nos villes, eh bien le pollen va petit à petit sensibiliser les personnes qui sont autour et sont susceptibles de poser des problèmes de santé publique. Il y a un problème dont on s'est aperçu de manière plus récente et qui est apparu plutôt dans des pays neufs tels que l'Australie ou l'Afrique du Sud, qui est le risque d'invasion biologique. C'est-à-dire que si on emmène une plante nouvelle dans un univers d'accueil, cet univers n'est pas forcément préparé à la recevoir. Et cette plante peut devenir une concurrente par rapport aux plantes que vous citiez tout à l'heure, qui sont des plantes indigènes ou éventuellement des plantes endémiques. Et à ce moment-là, elle peut entrer en concurrence avec elles et les remplacer. Oui. Et là, ça devient très terrible parce qu'elle peut aller même jusqu'à faire disparaître des plantes indigènes. Le mimosa le plus commun, ce qu'on appelle Acacia de Albata en latin, qui est le mimosa qu'on trouve en grand nombre dans le massif de l'Estérel, oui. C'est une plante envahissante, c'est une plante invasive. Oui. Les deux termes sont utilisés actuellement. Et donc, la plante en question est arrivée dans notre pays probablement au début du 19e siècle, et elle s'est trouvée très bien, et elle s'est trouvée très bien essentiellement sur des terrains non calcaires, en tout cas, puisqu'elle ne supporte pas le calcaire. Et une fois qu'elle s'est retrouvée dans un milieu qui était un petit peu soumis à des conditions difficiles de feu, des perturbations de sécheresse, des perturbations aussi dues à l'activité humaine, d'agriculture, des choses comme ça. Donc on débroussaille, on déséquilibre le
milieu,
la nature, si vous voulez, et à ce moment-là, la plante qui est une étrangère, qui elle a des capacités, des compétences, on va pouvoir dire, un petit peu
sans faire
d'anthropomorphisme. Voilà, elle est préadaptée à un certain nombre de conditions difficiles et elle va devenir une concurrente complètement déloyale par rapport aux espèces indigènes. Et donc, dans le massif de l'Estérel, tout le monde peut le voir, les mimosas, donc les acacias de Alberta, on les voit très bien se répandre sur les talus des autoroutes, autour des villes, autour des cultures, et puis petit à petit gagner la nature.
On a ce même phénomène avec les insectes, quand malheureusement on transporte des insectes de son milieu, et on l'a aussi avec des algues, puisqu'il y avait eu la Tachyphoria, cette algue. Donc ça c'est vraiment un des dangers, c'est l'invasion par une espèce étrangère d'un milieu. Bon, mais imaginons...
Heureusement, fort heureusement, il faut prendre des précautions, c'est-à-dire que nous prenons des précautions.
C'est ça, vous faites attention de bien tester.
Voilà, et c'est effectivement le message qu'il faudrait délivrer aux amateurs, hein, à tous les gens qui font de l'acclimatation. Je ne veux pas du tout freiner leur envie de faire de l'acclimatation, parce qu'il faut consulter par exemple les listes d'espèces qui sont déjà identifiées comme étant invasives dans d'autres pays.
Oui. Hein,
donc nous, quand on introduit une espèce, on commence à regarder si elle ne se retrouve pas dans une liste de plantes invasives ailleurs.
Oui, c'est bien.
On regarde dans notre jardin, notre jardin curé, donc est un laboratoire en quelque sorte, dans lequel on peut regarder son comportement. Donc on voit si, par exemple, il y a un semis naturel. Elle est capable de se naturaliser. C'est pas parce que qu'elle se naturalise qu'elle va devenir envahissante. Voilà. Donc on a un certain nombre de critères comme ça qui nous permettent d'observer le comportement de la plante et qui va nous dire, bon, dès qu'on a un petit peu de doute sur son comportement, eh ben on va essayer de faire en sorte que cette plante ne soit pas diffusée.
D'accord.
Donc on va la garder de manière un peu égoïste pour nous, quitte même à la supprimer.
Si elle devient...
si on a un petit peu des doutes sur ses compétences. Nous, on travaille avec les conservatoires botaniques, normalement, notamment les conservatoires botaniques nationaux, et avec les gens qui travaillent sur des espèces invasives, de façon à contribuer d'abord à les renseigner sur les comportements de telle ou telle espèce dans notre milieu à nous, et puis, à contrario, on entend, on écoute leurs conseils, et on met en œuvre éventuellement les pratiques qu'ils nous suggèrent de façon à éviter qu'il y ait des contaminations.
À quoi servent-elles toutes ces plantes ?
Elles servent d'abord, on est nous, jardin d'acclimatation, pour les étudier. Donc il y a quand même d'abord un objectif de connaissance. Étudier la plante, c'est savoir comment elle pousse, sa morphologie, son architecture, sa phénologie, enfin, c'est des mots un peu savants tout ça, mais en gros c'est comment elle pousse, comment elle se comporte, etc. Ensuite on peut, grâce à toutes ces plantes-là, grâce à cette connaissance, suivre des transformations, des mouvements qui ont lieu actuellement. Par exemple, on parle beaucoup de changement climatique. Oui. Donc nous, on intervient par le suivi des dates de floraison, par exemple, de nos plantes, sur la mise en évidence de ce changement climatique. On peut intervenir là-dessus. Donc ça, c'est sur le plan scientifique.
Oui.
Et après, sur le plan qui intéresse peut-être davantage les auditeurs, c'est à quoi elles servent en tant que plantes. Eh bien, ce sont des végétaux, une fois qu'ils ont été bien acclimatés et qu'ils ont montré qu'ils étaient beaux ou qu'ils avaient une certaine façon de pousser, etc., enfin, selon toutes leurs caractéristiques, en fonction justement de ces caractères qu'on étudie, on peut proposer, nous, à nos partenaires, qui sont des partenaires professionnels, telle ou telle plante pour rendre tel ou tel service. Alors, je vais donner un exemple très simple. Actuellement, par exemple, on parle beaucoup de développement durable, on parle beaucoup d'aménagement des espaces verts, par exemple, avec des espèces qu'on arroserait moins, qui demanderaient moins d'entretien, qui demanderaient moins d'intrants, comme on dit dans notre jargon. Eh bien, il faudrait trouver des arbres qui n'auraient pas besoin, justement, d'être arrosés, qui n'auraient pas besoin d'être taillés, qui pourraient correspondre à un certain nombre de desiderata, qui sont des desiderata modernes, modernes dans la ville. D'économie ou des caractéristiques, ombre légère, ombre fraîche, odeur, vitesse de croissance, date de floraison, la feuille tombe ou ne tombe pas, enfin tout un tas de caractéristiques qui sont des caractéristiques très concrètes. Et donc à partir du moment où nous avons, nous, une demande précise que nous essayons de traduire en caractère morphologique ou en caractère biologique, si vous voulez, nous sommes susceptibles de pouvoir proposer des espèces qui correspondent. Et nous travaillons avec des réseaux de professionnels, d'abord avec des réseaux d'expérimentateurs, puis des réseaux de professionnels, qui sont susceptibles de fouiller un petit peu plus, d'expérimenter davantage les espèces que nous pouvons leur proposer, de façon à pouvoir les utiliser ultérieurement.
Ça peut partir chez un pépiniériste qui va les reproduire.
Et après, bien sûr, c'est diffusé, dans nos partenaires, les diffusent après, mettre au point toutes les techniques d'élevage, etc., sur le plan industriel, si vous voulez, économique, industriel, et à ce moment-là, ça peut partir dans le domaine public. Et du coup, nous sommes en quelque sorte, j'ai pris l'exemple de l'arbre urbain, mais ça peut être aussi la plante pour les bouquets, ça peut être un arbuste couvre-sol pour stabiliser des talus, ça peut être une plante aromatique pour de nouveaux produits, ou vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Nous constituons, nous, un réservoir de ressources à la fois plantes et connaissances, il y a les deux qui vont ensemble, bien sûr. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a 150 ans derrière nous, donc on a du passé, puisqu'on on garde nos archives, donc on sait comment se comportent ces plantes-là depuis très très longtemps, et donc ces plantes-là, grâce à ces connaissances, sont susceptibles de pouvoir répondre à tel ou tel problème de la société.
Et toutes les plantes de la Villa Turée sont à l'air libre, je dirais, où il y en a certaines qui sont sous serre
Ce qui est sous serre, c'est tout toute la phase d'introduction. C'est-à-dire que lorsque nous introduisons nos graines, elles sont mises à germer dans une serre d'expérimentation, c'est une serre expérimentale, dans laquelle nous surveillons, enfin, d'abord on met au point, parce qu'il faut mettre au point toutes les techniques de pré-germination et de germination, qui sont des choses qui sont la plupart du temps inconnues. Donc on met c'est un peu notre premier travail scientifique, si vous voulez. Oui. Et une fois que la plante a été germée, a poussé, a été élevée en conteneur pendant 1, 2 ou 3 ans, à ce moment-là, on la met en plein air, on la plante en plein air dans le jardin botanique. Et donc là, elle va être soumise à des conditions un peu difficiles, qui sont nos conditions à nous, c'est-à-dire des conditions à la fois de sécheresse estivale, de froid relatif en hiver, en tout cas d'accidents potentiels en hiver, puisqu'il nous arrive d'avoir des gels importants, et puis les conditions de sol qui sont les nôtres, et les conditions aussi de concurrence avec d'autres végétaux, puisque toutes ces plantes, tous ces arbres sont plantés les uns à côté des autres, et sont susceptibles de se concurrencer les uns les autres. Et donc là, commence pour nous le gros travail d'observation, de comportement. Donc nous sommes là un petit peu des voyeurs, des observateurs, de façon à voir comment se comporte la plante, est-ce qu'elle fleurit, est-ce qu'elle fleurit pas, est-ce qu'elle prend des parasites, est-ce qu'elle n'en prend pas, est-ce qu'elle résiste à la sécheresse ou pas. Donc on n'arrose pas, on donne des soins qui sont des soins minimalistes en quelque sorte. Les jardiniers ne sont pas des jardiniers comme les autres, entre guillemets, si vous voulez, ce sont des jardiniers qui essaient d'observer tout le comportement de la plante et toutes les potentialités qu'elle est capable de nous dire, de nous expliquer, à nous de savoir interpréter.
La grande partie de votre recherche, c'est justement d'analyser ce qu'elle ressent, comment elle s'acclimate, qu'est-ce qu'elle donne. Vous avez beaucoup de pertes, par exemple, est-ce que vous avez des chiffres? Vous introduisez combien d'espèces en moyenne, combien en pourcentage s'acclimate, d'autres meurent dans les 3 premières années? Vous avez une idée de ça?
Si vous voulez, on a, on va dire, peut-être 60% de réussite à la pépinière. C'est-à-dire qu'on introduit chaque année entre 100 et 200 espèces nouvelles. Sur les 100 ou 200, on va avoir un petit peu de perte parce que les graines ne sont pas bonnes, parce qu'elles n'arrivent pas à germer. Voilà. Donc on a 60%, 50-60% qui vont arriver dans le jardin, donc on va dire une centaine, pour simplifier. Et puis dans le jardin, eh bien, on va avoir de la perte. C'est difficile à quantifier parce qu'il peut y avoir des accidents, c'est-à-dire que les premières années, on ne va pas forcément planter l'individu correctement, on ne va pas trouver forcément le bon coin dans le jardin qui va lui aller, parce qu'il y a des microclimats, des micro-milieux dans le jardin, donc on peut avoir des échecs la première année, donc on va recommencer. C'est en recommençant qu'on va pouvoir éventuellement avoir des réussites. Donc il y a ce premier aspect qui est à prendre en compte. Et il y a un deuxième aspect qui est qu'on travaille quand même sur des ligneux, donc c'est plutôt sur des arbres ou des arbustes, et que les résultats, on ne les a pas tout de suite. La plante, elle va mettre parfois 10 ans, 20 ans avant de bien s'installer, et puis il faudra attendre aussi peut-être 30 ans ou 40 ans avant d'avoir le froid exceptionnel qui va venir régler le problème.
Votre livre est très bien fait. Il a d'abord une iconographie des photos magnifiques.
Là, il faut féliciter le photographe qui est un photographe d'ambiance et qui connaît bien le jardin. Donc, il photographie les plantes du jardin depuis des dizaines d'années, voire davantage.
Donc là, on voit qu'on a ses meilleurs clichés pour chaque plante. Et puis, c'est vrai que c'est une aventure que vous vivez à travers cette introduction de plantes et puis leur suivi. C'est important de nous faire partager votre passion. Il se visite votre jardin?
Le jardin est ouvert au public. La visite est libre et gratuite, donc une visite individuelle. Libre et gratuite, donc c'est un jardin qui est largement ouvert. Pour l'instant, il est fermé le samedi et le dimanche, sauf 2 fois par an. Donc c'est pour les rendez-vous au jardin, qui est le premier dimanche de juin, et pour les journées, le dimanche des journées du patrimoine, l'Union européenne du patrimoine en septembre.